Et bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 23 novembre. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, un Premier ministre positif au Covid et qui condamne avec la plus extrême fermeté les violences en Guadeloupe et appelle au dialogue. Nous sommes en direct de Pointe-à-Pitre dès le début de ce journal et on en parle, Léa, avec votre invité à 7h50.
Oui, la fermeté du gouvernement est-elle la bonne réponse? Y a-t-il un risque de contagion à la métropole? On posera toutes ces questions au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin sera notre invité à 7h50.
Les autres titres, Anaïs.
La nouvelle politique agricole commune votée aujourd'hui au Parlement européen. Nous serons aussi en Afghanistan. Nos reporters ont rencontré une actrice de télévision à la carrière brisée par les talibans. Et puis les premiers marins de la Jacques Vabre ont touché terre en Martinique, Sébastien Rogue et Mathieu Souben.
À 8h20, le grand entretien de la matinale avec donc la députée du Pas-de-Calais, candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle. Marine Le Pen à notre micro avec Léa tout à l'heure. Vos questions dès maintenant 01 45 24 7000.
France Inter. Le dialogue et la médiation. Le gouvernement joue l'apaisement après avoir envoyé le GIGN et le RAID en Guadeloupe pour débloquer les barrages. Réunion hier à Matignon avec les élus antillais, en visioconférence pour le Premier ministre positif au Covid-19, Jean Castex qui en appelle au calme.
C'est une petite minorité violente qui dévalise les magasins, qui barre les routes, qui rançonne les automobilistes, qui empêche des personnes malades d'accéder à des soins parfois vitaux et qui va même jusqu'à tirer sur les forces de l'ordre. Je condamne avec la plus extrême fermeté ces violences. Les auteurs sont et continueront d'être arrêtés et jugés. Je veux dire aussi toute ma solidarité à nos concitoyens de Guadeloupe et qui en sont les premières victimes. Je le dis clairement, rien ne peut justifier de tels actes qui se servent de la crise sanitaire comme d'un prétexte.
Et parmi les victimes, s'inquiète l'Agence régionale de santé, des professionnels de santé ont été physiquement agressés. Un médecin tenu en joue avec un fusil sur la tempe à la sortie de sa garde aux urgences au niveau d'un barrage. Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Vous êtes en Guadeloupe où c'est la nuit actuellement. On voit avec vous si le dialogue proposé par le Premier ministre avec les soignants vaccinés à 90% et les pompiers a calmé le jeu. Vous êtes, vous, à un barrage sur la route entre Pointe-à-Pitre et Sainte-Anne.
Des troncs d'arbres, des palettes, des blocs de pierre et des carcasses de voitures calcinées ont été mises en travers de la route. En pleine nuit, ce barrage filtrant est encore tenu par une vingtaine de manifestants, des jeunes pour la plupart. Will est infirmier au CHU de Guadeloupe. Il fait partie des soignants, aujourd'hui minoritaires, qui refusent toujours de se faire vacciner.
Je fais partie des soignants qui sont suspendus et puis maintenant, voilà, on se retrouve au chômage technique. Entre guillemets, parce qu'on ne sait pas encore jusqu'à quand on est suspendu et qu'on ne va pas être payé. Je trouve que c'est pas normal. Moi, j'ai entendu le Premier ministre Jean Castex dire qu'il veut absolument que les Guadeloupéens soignants et pompiers prennent le vaccin. Mais nous ne sommes pas dupes. Pour l'instant, pour moi, il n'est pas au point. C'est hors de question d'injecter un produit qui n'est pas au point. Vaut mieux encore attendre et on verra.
Les paroles du Premier ministre ne vont pas calmer les esprits, estime Lydie. Elle travaille dans les cantines scolaires et depuis une semaine, elle passe toutes ses nuits sur ce barrage.
Tant qu'on n'arrête pas le truc de l'obligation vaccinale, je suis là. Je suis là avec eux toutes les nuits. Hein. J'attends qu'on nous laisse la liberté parce que maintenant, là, c'est parti en couille. Hein.
On veut vivre, on veut être libre.
Mais au-delà de la vaccination, ces manifestants exigent aussi du gouvernement qu'il réponde à leurs préoccupations économiques et sociales avec des mesures concrètes pour faire retomber la colère.
Yann Gallic, merci. En direct de Guadeloupe avec Marc Garvenès, la préfecture envisage par ailleurs de limiter les ventes de carburant. Et puis en Martinique, des blocages ont paralysé hier une partie de l'activité économique. On l'a dit, Jean Castex en visioconférence hier, le Premier ministre positif, agenda aménagé, précision à lire sur franceinter.fr. Et comme un goût du passé, voilà revenu les cas contacts en cascade, une partie du gouvernement belge en quarantaine pour avoir participé hier à une réunion franco-belge. siège autour de notre Premier ministre. Ailleurs, l'inquiétude allemande sur la situation outre-Rhin conduit les États-Unis à déconseiller à ses ressortissants tout voyage vers l'Allemagne et le Danemark. Israël a entamé dès hier soir la vaccination des enfants de 5 à 11 ans.
Il est 7h05. Peut-on, Anaïs, adapter l'agriculture européenne aux défis climatiques et environnementaux?
Numéro d'équilibriste des parlementaires européens réunis à Strasbourg pour adopter la nouvelle politique agricole commune, un tiers du budget européen. Fruit de plusieurs années de négociations pour verdir l'agriculture, les deux principaux groupes politiques devraient voter pour, les écologistes contre. À Strasbourg, Angélique Bouin.
Cette nouvelle PAC n'est pas parfaite, reconnaît Anne Sander, eurodéputée LR, mais nous avons largement réévalué, dit-elle, son ambition écologique, en particulier sur son impact en France.
Contrairement à ce qu'on peut entendre, eh bien, le verdissement de la PAC continue et se renforce. En gros, 90% maintenant des crédits sont conditionnés à des pratiques environnementales. Donc vraiment, les agriculteurs vont devoir faire des efforts.
90% contre un peu moins de 30% actuellement, selon l'eurodéputé qui a négocié pour la droite européenne. Mais le diable se cache dans les détails, lui répond Benoît Biteau, eurodéputé vert et agriculteur. On laisse, selon lui, encore trop de latitude dans les cahiers des charges aux futurs bénéficiaires. Il estime aussi qu'il aurait fallu revoir les aides à l'hectare.
Ce qui manque donc dans cette PAC, c'est qu'on ne change pas le cœur du réacteur. On continue avec des aides aux surfaces, plus on a d'hectares, plus on a d'aides. 80% de l'enveloppe est mobilisée par seulement 20% des agriculteurs. Ça pose la question de la cohérence des politiques publiques de l'Union européenne.
Aide aux surfaces qui pourrait néanmoins être plafonnée nationalement. La nouvelle politique agricole commune donne en effet plus de latitude aux États. La France n'a pas encore finalisé sa copie. Strasbourg, Angélique Bouin, France Inter.
Et copie française pas assez verte a déjà alerté l'autorité environnementale qui conseille le gouvernement français. La PAC entre en vigueur en 2023. Aujourd'hui, par ailleurs, le gouvernement détaille sa feuille de route contre les suicides d'agriculteurs. Des volontaires seront formés pour détecter les situations de détresse. Plus d'argent aussi pour financer des remplacements d'agriculteurs épuisés. Autre public en difficulté, les jeunes et les mères seules avec enfants. Les Restos du Cœur lancent aujourd'hui leur 37e campagne. 40% des bénéficiaires sont des mineurs. L'épidémie de coronavirus a enfoncé ceux qui étaient déjà fragilisés. Et dans ce contexte, le 115 s'inquiète à l'approche de l'hiver. En Seine-Saint-Denis, l'association qui gère la plateforme d'appel craint un manque de places malgré les 200 000 places d'urgence financées par le gouvernement. Pour l'instant, aucune ouverture de place hivernale et le 115 sature. Reportage Rémi Brancato.
Sur la plateforme d'appel du 115, on ne peut pas répondre à tout le monde. Après 4 jours de tentative, cet homme et sa compagne, enceinte de 2 mois, ont enfin quelqu'un en ligne.
Vous êtes resté à l'hôpital Jean Verdier, c'est là-bas que vous êtes abrité la nuit.
Hicham leur conseille de rappeler, il sait que les places manquent.
On n'arrive pas à leur trouver de la place malheureusement. Même les femmes enceintes, même les femmes avec enfants de moins de 3 ans. L'année dernière, à cette même période, il y avait des places hivernales. Cette année, on n'a pas encore vu de places hivernales.
Avant la pandémie, dans le département, 500 à 800 places ouvraient en début de période hivernale. Cette année, Anoutsa ne peut pas les proposer.
Le fait d'entendre une voix d'enfant qui te dit « S'il vous plaît, aidez-moi, on a très froid, j'en peux plus, c'est très dur. »
Le gouvernement a arrêté la gestion dite au thermomètre. Plus de 40 000 places ouvertes depuis le début de la crise sanitaire ont été prolongées. Malgré cet effort, pour l'association qui gère le 115 en Seine-Saint-Denis, Interlogement 93, et Valérie Puvillan, directrice du service, il y a encore urgence.
On a des annonces de prolongation de places hivernales, donc depuis 2 ans, ça c'est très positif. On a aussi des annonces de création de places pérennes, et ça c'est encore plus positif. Mais en face de ça, on a la réalité de terrain qui fait qu'on est en novembre, on a plus de 400 personnes à la rue chaque jour et on n'a pas de solution à leur proposer.
Le ministère du Logement dit être attentif et répond que certaines places pourront ouvrir si le plan grand froid est activé.
Rémi Brancato. Jean-Pierre Pernaut annonce être atteint d'un cancer du poumon. L'ex-présentateur de TF1 explique sur Twitter l'avoir appris en mai. Il a subi une opération en juillet. Il ne faut pas avoir peur du cancer. Il faut améliorer la prévention, dit Jean-Pierre Pernaut.
Il est 7h09. Les femmes, Anaïs, effacées de la télévision afghane.
Devenue persona non grata des séries. Nouvelle directive religieuse des talibans au pouvoir depuis 3 mois. Les télés doivent éviter de montrer des feuilletons à l'eau de rose dans lesquels les femmes ont joué. Écoutez le reportage de nos envoyés spéciaux Thibault Lefebvre et Arthur Gerbeau. Ils se sont rendus à Kandahar, l'une des villes les plus conservatrices.
Baba, c'était il y a 2 ans. ans.
This is me.
Mariam, aujourd'hui 23 ans, jouait dans un film une jeune femme aveugle qui, grâce à la radio, profitait de rares moments de bonheur. Mais depuis l'arrivée des talibans, sa carrière est terminée.
I think my career has just ended. It's really hard for us. And I don't see any future.
C'est très dur pour nous et je ne vois aucune perspective. Ils disent que c'est un péché quand vous entendez les voix des femmes à la radio ou à la télévision. Mais je leur demande de ne pas stopper nos carrières comme ça.
Le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, très craint en Afghanistan, précise que la directive religieuse n'est pas une règle. Et pour Ahmad Saïd, le responsable local du ministère de l'Information et de la Culture, il s'agit de simples recommandations.
Le précédent régime n'a pas assez travaillé. Trois mois sont passés et les gens savent que l'émirat islamique n'a rien interdit, juste imposer le port du voile. Ce sont nos valeurs islamiques et la tradition afghane.
Le discours officiel des talibans donc, même si la directive semble pour le moment ne pas avoir beaucoup d'effet. Quelques chaînes diffusaient hier des chants religieux, mais la plupart d'entre elles des films romantiques indiens produits par Bollywood.
Thibault Lefebvre en Afghanistan pour France Inter. Un réseau de passeurs de migrants démantelé en France, 15 trafiquants interpellés. Ce réseau faisait venir des Zodiacs de Chine pour y embarquer des exilés direction la Grande-Bretagne à travers la Manche. 250 personnes par mois à raison de 6 000 euros par migrant. 3 millions d'euros de bénéfices selon la police. L'enquête a débuté il y a un an. L'incident lors de Lyon-Marseille aura sans doute été celui de trop. Le dossier est désormais repris en main par le gouvernement. Réunion à 9h30 tout à l'heure au ministère de l'Intérieur. Allez, quelques heures avant les ultimes, les superstars de la Transat, Jacques Vabre, l'arrivée des premiers marins cette nuit, épuisés après 15 jours de traversée de nerfs soumis à rude épreuve, mais qui savourent leur bonheur. Jérôme Val, vous êtes en direct de Fort-de-France, en Martinique. Victoire surprise de Sébastien Rogue et Mathieu Souben en Ocean 50, c'est multicoque de 15 mètres.
Salut la Martinique !
Les bras levés, les yeux fatigués mais rieurs, les traits tirés mais la mine réjouie, le champagne.
Ah, c'est bon de vous voir.
Les scènes d'arrivée de course sont toujours un régal, Anaïs. Et c'est vrai, le duo Sébastien Rogue, Mathieu Souben a créé une belle surprise dans cette nuit noire et étoilée ici à Fort-de-France. Un moment rare dans une carrière de marin, ont déclaré les deux amis. Mathieu Souben raconte ce trop-plein d'émotions.
C'est tout qui se relâche, l'aventure humaine, l'aventure sportive. C'est plein d'émotions là qui traversent en même temps. Et c'est vrai qu'on rend une très très belle copie, je pense, sur cette Transat. Donc c'est le plaisir du travail bien fait aussi.
Et ce n'est pas loin d'être une course, en effet, quasi parfaite pour le tandem. Les deux marins ont pris la poudre des scampettes au passage des Canaries et n'ont plus lâché la tête de la flotte. Ils ont même réussi l'exploit de damer le pion aux ultimes, ces trimarans géants qui n'ont même pas le même parcours, mais qui étaient censés aller plus vite. Un petit plaisir pour Sébastien Rogue.
Ça fait toujours plaisir d'arriver avant les ultimes, faut le dire. Ils avaient vraiment pas le même parcours que nous. De toute façon, ça reste les plus beaux bateaux du monde avec les meilleurs marins du monde, ça changera pas. Je crois qu'il y a peu de chances dans sa vie où tu peux gagner la Jacques Vabre et encore moins la gagner devant les ultimes, alors peut-être que celle-là, ce sera la seule de notre vie.
Il y a 35 ans, Sébastien Rogue, vous en conviendrez, n'est pas le plus connu des marins, mais son palmarès se remplit joliment.
Eh bien, chapeau bas tous les deux. Merci Jérôme Val et Sandrine Malouin, direct de la Martinique.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, le zoom sur le rebond de Karim Benzema.